Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Une route périphérique comme voie rapide pour désengorger les artères au centre de Kinshasa. Elle sera construite depuis Mitendi dans la périphérie ouest de la capitale. Les travaux ont été lancés hier samedi par le chef de l'État. Bonne nouvelle pour la centaine des personnes vivant avec le VIH-Sida à Maïgi en Ituri. Après l'alerte des autorités sanitaires sur une possible rupture des stocks des médicaments contre cette maladie, la zone de santé de Rimba vient d'être approvisionnée, annonce de l'administrateur général de cette zone de santé. Et puis, une conférence débat sur la gestion des déchets à Kinshasa. Elle est prévue le 28 juin en cours par le professeur Pierre-Albert Ngwelele. Il est docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles. Invité de ce journal, il plaide pour la mise en place d'un programme national d'assainissement pour résoudre cette question. À tous et à toutes, bonjour. Le président de la République a lancé hier en début d'après-midi les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa depuis Mitendi. Il s'agit d'une route périphérique constituant une voie rapide autour d'une partie de la ville de Kinshasa pour désengorger les artères au centre de la capitale. Cette route sera construite sur un tracé long de 63 km. Elle est à réaliser en quatre bandes et formera une partie de la boucle autour de Kinshasa. Ça renseigne l'Agence congolaise des grands travaux. D'autres précisions sur ce projet avec le DG de la CGT, Nico Nzaunzaou, au micro de Billy Van Lutumba.
Ces recadres ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de quatre recadres, dont les deux qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendele au niveau de la Rimbu du terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mitendi, la rocade sud-est de 41,54 km partant de Mitendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Njoku et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue par l'Agence congolaise des grands travaux depuis 2014, d'une route deux fois deux voies de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi. Une route revêtue en béton bitumineux, deux fois deux voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élargissement en deux fois trois voies sur 2,5 km avec deux échangeurs de type saut de mouton.
Notons qu'il est également prévu plusieurs ponts, plusieurs dalots, le traitement de plusieurs têtes d'érosion et d'importants travaux de terrassement. 8 routes pénétrantes permettront de connecter les rocades sud-ouest avec la route périphérique du nord. Par ailleurs, notez l'inauguration hier à Matadi du guichet unique de création d'entreprise, antenne de Matadi. La cérémonie de remise du bâtiment des vents abrités, ce service a été présidée par la ministre provinciale de la Justice, représentant le gouverneur du Congo central, en présence de la représentante pays de la Banque mondiale. L'opérationnalisation de ce guichet est l'aboutissement de la collaboration entre le Congo central et le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises avec le financement de la Banque mondiale. D'autres détails avec Nana Plurich Mambou.
La mise en place de ces guichets uniques de création d'entreprises est un ouf de soulagement pour les entrepreneurs du Congo central qui se débattaient pour créer et formaliser leurs entreprises. Amissi Eradi, directeur général du guichet unique, parle de la mission de ces services de l'État.
Et ce guichet unique a comme mission essentielle de pouvoir faciliter le processus de création d'entreprises dans notre pays. Quelqu'un qui veut créer sa société, quelle que soit la taille de celle-ci, il n'a qu'à payer 110 dollars. Et si c'est un établissement, il n'a qu'à payer 40 dollars.
Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME, à travers lesquelles la Banque mondiale a financé l'opérationnalisation de ces guichets uniques, appelle les entrepreneurs à s'approprier ces services. Alexis Mangala.
Mon souhait le plus ardent est que cette antenne du guichet unique de création d'entreprise soit et demeure au cœur de toutes les activités d'entrepreneuriat dans toute la province du Congo central.
Notez que ce guichet unique de création d'entreprise profite aux 1286 femmes entrepreneurs bénéficiaires de la subvention en nature ainsi qu'à l'ensemble des opérateurs économiques pour formaliser leurs activités. Parlons à présent de cette bonne nouvelle pour les personnes vivant avec le VIH-Sida dans le territoire de Mahagui en Ituri. La zone de santé de Rimba vient d'être approvisionnée en médicaments pour lutter contre cette maladie. Annonce faite vendredi par les autorités sanitaires locales. Jeudi, ces dernières avaient lancé un cri de détresse sur une éventuelle rupture des stocks d'ici au 30 juin 2024. Une situation qui pourrait mettre en danger la vie de 534 malades qui sont sous traitement dans cette entité sanitaire. Jean-François Ngoningom, l'administrateur général de cette zone de santé, joint par Jean-Claude Loki.
La zone de santé de Rimba vient d'être approvisionnée en intrants de lutte contre le VIH-Sida, où la zone de santé manifestait son inquiétude par rapport au lot disponible et qui allait périmer dans 10 jours. Le nouveau stock vient d'arriver et ici nous profitons de l'occasion pour assurer la population. La prise en charge va continuer de la belle manière comme par le passé. Les intrants sont disponibles au BCZ. Donc l'inquiétude manifestée par la zone de santé est finie maintenant. Il n'y a rien à s'inquiéter par rapport à la prise en charge des cas de VIH sur l'ensemble de la zone de santé de Rimba. À quoi dire merci d'abord à la hiérarchie qui a vite agi pour permettre à ce que les programmes aillent de bons traits.
Dans la province de la Tchopo, la division provinciale de la santé appelle les tradis praticiens à une franche collaboration avec les services compétents du système de santé. Cet appel leur a été lancé par le représentant du chef des divisions provinciales de la santé. C'était hier à l'occasion de l'investiture du nouveau président du conseil provincial des tradis praticiens de la Tchopo, Jacques Moukonkolé. Reportage.
La cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil provincial des tradis praticiens s'est déroulée dans la salle des réunions de la division provinciale de la santé. Une occasion pour Raymond Baya, représentant du chef de division provinciale de la santé, d'appeler ses hôtes à une franche collaboration en transmettant en temps utile toutes les informations sanitaires en leur possession.
La médecine traditionnelle est totalement intégrée dans notre système de santé. Avec l'élection de ce comité, ça va nous permettre d'avoir toutes les informations sanitaires, toutes les pathologies, les épidémies qui peuvent commencer, que nous soyons déjà informés dans le temps pour nous permettre de réagir dans le temps.
Tout en assurant à la division provinciale de la santé de cette collaboration, le président du conseil provincial des tradis praticiens a profité de cette occasion pour décréter une mobilisation générale en faveur de la médecine traditionnelle et redorer leur blason. Angelus Kambalé.
La défense de la médecine traditionnelle, c'est dans le cadre de son amélioration, que cette médecine traditionnelle ne soit plus comme avant. C'était une médecine traditionnelle pure et maintenant là, on commence déjà à faire la médecine tradie moderne et améliorée.
Rappelons que les membres du comité directeur des tradis praticiens ont été élus le 2 juin dernier. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Direction Goma, une importante flamme au sommet du volcan Nyiragongo a été observée vendredi vers 18h30 locale, provoquant ainsi la panique au sein de la population du chef-lieu du Nord Kivu. Face à cette situation, le comité de gestion de l'observatoire volcanologique de Goma et la délégation syndicale se sont réunis d'urgence hier samedi. Le compte rendu de Denise Lukeso, rendu par Alain Rungmushinj.
Au centre des échanges, justement, l'activité qualifiée de préoccupante du volcan Nyiragongo. Selon un responsable de l'OVG, il est difficile pour le moment de donner l'état réel du volcan. Cependant, une commission chargée de travailler jour et nuit, et cela pendant 3 jours, vient d'être mise en place à l'issue de cette réunion. C'est pour évaluer la situation en dépouillant et analysant toutes les données stockées, selon le communiqué parvenu à Radio Okapi ce week-end. Cette commission va récolter et traiter les données de terrain afin de cerner l'activité magmatique dans et autour du critère du volcan afin de produire un rapport à soumettre à qui de droit, indique le communiqué. Cette rencontre entre le sommet et la base de l'OVG intervient aussi à point nommé et permet en même temps de tempérer la grogne sociale qui a été déclenchée il y a quelques jours au sein de cette structure.
Sud Kivu, la plateforme observatoire de la gouvernance humanitaire, s'est dit préoccupée par le sort des personnes sinistrées des pluies diluviennes du 26 au 27 décembre 2023 dans la ville de Bukavu. Ce réseau plaide pour la délocalisation des ménages sinistrés sur un autre site bien loti. Jean Kassami.
Les sinistrés sont en même temps les rescapés des pluies diluviennes qui ont fait 29 morts, dont 6 femmes, 7 hommes et 16 enfants en décembre 2023, dans plusieurs quartiers et avenues de la ville de Bukavu. Plusieurs personnes blessées, mais aussi plus de 200 maisons entièrement ou partiellement détruites par les inondations. Des biens matériels emportés par les courants d'eau, mal ou pas du tout canalisés. Les études menées une année après par l'Observatoire de la gouvernance humanitaire attestent que les familles sinistrées semblent abandonnées à leur triste sort. Ainsi, l'Observatoire plaide pour la continuité de l'assistance en faveur des familles affectées. Un comité local de crise est mis en place afin de canaliser les assistances de quelque nature que ce soit. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Justice. La Cour des comptes inflige une amende de 20 millions de francs congolais à Moya Kabou et la Bienvenue pour faute de gestion. Il s'agit d'un troisième arrêt rendu vendredi par la Cour qui siégeait en matière de discipline budgétaire et financière. Madame Moya Kabou est comptable publique principale des recettes de la ville de Kinshasa, district de la Funa. Elle a été reconnue coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles exercice 2020, 2021 et 2022 à cette Cour. La partie prévue dénonce cette décision qu'elle qualifie d'une facilité malgré toutes les exceptions soulevées. L'arrêt qui a été prononcé, à notre sens, ne fait pas évoluer le droit parce qu'il ne se fonde pas sur le bon droit, conteste Noble Feta, avocat de la défense. Et puis, on peut étudier le pouvoir dans sa source, son organisation, son fonctionnement et sa perte. C'est par ces mots que le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, professeur Jean-Louis Sambo, circonscrit le cadre de la conférence scientifique organisée hier par le département du droit public interne à l'UNIKIN. Axée sur les regards croisés de l'objet du droit constitutionnel, cette conférence était organisée en hommage aux éminents professeurs constitutionnalistes trépassés, à savoir Djelo Mpenge et Kitete Kekumba. Jean-Louis Sambo contextualise le thème de cette conférence avec l'actualité politique du pays. Il est ici au micro de Jeff Ngoy.
Les professeurs Jean-Claude Victor Djelo Mpenge Osako et Augustin Kitete Kekumba sont tous des professeurs. Ils étaient professeurs du département de droit public interne où ils avaient enseigné le droit constitutionnel. Et ils ont vraiment animé cette matière-là, ce qui faisait que la faculté rayonnait sur le plan de la réflexion et sur la production scientifique. Ce thème veut simplement circonscrire le cadre de l'enseignement du droit constitutionnel tel qu'il est perçu aujourd'hui et voir si ce droit constitutionnel doit seulement se limiter à l'étude de l'État pour l'un ou à l'étude du pouvoir pour l'autre. Et de la conjonction entre ces deux dimensions de la recherche, on arrive à une idée que le droit constitutionnel étudie certes le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir qui est en l'air, c'est un pouvoir qui est exercé au sein de l'État. Et on doit y voir non seulement la genèse du pouvoir, l'organisation du pouvoir, le fonctionnement, et j'ajoute la perte du pouvoir.
Dans l'actualité aussi, cette divergence autour du protocole d'accord signé entre la province du Kwilu et la société Cap Congo, une commission mixte sera mise en place pour vulgariser le projet d'exploitation de 42 000 hectares par cette société. Elle aura également pour mission d'enquêter sur les domaines privés affectés par la cession de ces terres à Mushi Pentane. C'est ce qui ressort d'une réunion quadripartite tenue vendredi par le gouverneur intérimaire du Kwilu. Félicien Kiwai appelle les fermiers et les notables de Bagata à une décision concertée afin de lancer l'exécution du projet. Irène Boma.
Cette rencontre a connu la participation des fermiers du site de Mushi Pentane, des notables de Bagata, des membres du gouvernement provincial ainsi que des représentants de la société Cap Congo. Objectif, taire les divergences sur la cession des 42 000 hectares, protocole d'accord signé entre l'exécutif provincial et la dite société. Les notables ont exigé la vulgarisation de ces protocoles avant de prendre toute position. Les fermiers, quant à eux, accusent le gouvernement d'agir en complicité avec Cap Congo afin d'empiéter sur leur domaine et recommande tout simplement la suppression du dit protocole. Le gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai, qui appelle les uns et les autres au calme, explique ce qui suit.
Nous allons mettre une deuxième commission qui va fédérer tout le monde pour qu'ensemble nous puissions tirer une conclusion de paix et de développement de notre chère province. Cap Congo, s'il doit continuer ou on doit rompre le projet, nous appelons d'abord tout le monde au calme.
Les conservateurs des titres immobiliers présents à ces assises affirme que ces fermiers exploitent sans qualité le site Kérélé, qui est un domaine de l'État réservé aux activités agricoles. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Cour pénale internationale CPI lève les scellés sur le mandat d'arrêt visant l'islamiste Iyad Ghaad Ali. Ce dernier est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou, au Mali, entre 2012 et 2013. Selon l'accusation, l'islamiste serait aussi derrière l'attaque contre une base militaire qui avait tué 40 soldats maliens.
L'invité.
Docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles, professeur Pierre-Albert Ngwelele, organise le 28 juin une conférence débat sur la gestion des déchets à Kinshasa. Invité de Radio Capi, il plaide pour la mise en place d'un programme national d'assainissement pour résoudre cette question. Cet expert en environnement signale que l'insalubrité constitue l'une des causes de la pauvreté avec ses corollaires dans les maladies et autres dans la capitale. Professeur Pierre-Albert Ngwelele est avec Blaise Ndongala Mayanda.
Professeur Pierre-Albert Ngwelele, bonjour.
Bonjour.
Vous organisez une conférence sur les déchets à Kinshasa. Avant d'aller plus loin, quel état des lieux dressez-vous de la gestion des déchets dans la capitale congolaise?
Merci, monsieur Blaise. Nous sommes dans un état catastrophique. D'autant plus qu'au niveau psychologique, les déchets ne plus répugnants. Au niveau psychologique, les déchets ne plus répugnants. Au niveau social, on semble accepter ou s'accommoder aux déchets. Et à Kinshasa, que ce soit la commune épie de la Gombe, jusque dans les banlieues, il n'y a plus un endroit qui est vraiment accepté dans le niveau de l'insalubrité. L'état des lieux est vraiment catastrophique et ça nécessite vraiment des interventions urgentes pour sauver les vies des populations et notre environnement.
Cette conférence va porter comme thème les déchets, un tueur silencieux à Kinshasa. Comment expliquez-vous cette thématique?
Cette thématique, je vais développer non pas à la radio, car sinon personne ne viendrait plus à ma conférence. Mais quand vous regardez le nombre de morts à Kinshasa, c'est vraiment révoltant. Mais c'est jamais de quoi? On n'a pas la tuberculose, on n'a pas les épidémies, mais nous avons l'insalubrité qui tue. La fièvre typhoïde, la diarrhée, les vers intestinaux, il y a des maladies respiratoires. Il y a même au niveau neurologique, quand on va à CNPP, la plupart des gens qui sont là-bas, ce sont les gens qui ont une malaria très compliquée. Et la malaria vient des immondices, de tous les déchets qu'on jette dans les rues, dans les caniveaux, l'eau ne circule plus. Nous sommes 17 millions d'habitants, mais le nombre de morts donc est disproportionné.
Donc vous imputez ces décès aux maladies
à l'insalubrité. À l'insalubrité, monsieur Blaise, regardez un peu, nous sommes 17 millions, prenons 14 millions d'adultes, ou bien 10 millions d'adultes. Si chaque adulte...
17 millions, nous sommes à Kinshasa.
À Kinshasa. Non, les derniers statistiques, c'est 17 millions 239 000. Mais il faut voir un peu, les gens entrent chaque jour dans notre capitale. Il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas d'identification. Quand vous prenez une personne adulte qui te produit au moins 400 grammes de caca par jour, et si nous sommes 10 millions, multipliés par 400 grammes, divisés par 1000, on a presque 40 000 tonnes ou bien 4 000 camions remplis de caca. Ça va où?
Par jour.
Et qu'est-ce qu'on fait des faux sceptiques? On les vide la nuit, on les jette dans les balabalas. Le caca va sécher et quand la moto passe, il remet la poussière. La poussière va où? Sur la viande, sur les beignets. Et c'est tout ce que nous mangeons. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ingurgite cela. Et on a des morts comme ça, gratuites, qu'on peut vraiment prévenir simplement avec les mesures de salubrité.
Alors, qu'est-ce que vous comptez faire passer comme message essentiel
au cours de
cette conférence?
Au cours de cette conférence, plutôt, mon message, c'est que je veux dire à notre nouveau gouverneur, j'ai honte d'inviter des amis pour venir visiter ma ville, parce qu'il y a des immondices et des saletés partout. Nous sommes un même pays. Pourquoi Bukavu ça marche? Pourquoi Goma c'est propre? Pourquoi Lubumbashi est propre? Et nous sommes dans la capitale.
Il ne suffit pas seulement d'avoir honte. Qu'est-ce que vous lancez comme message à la population quinoise d'abord, et puis aux autorités urbaines?
Aux autorités urbaines, nous leur offrons notre expertise. Nous avions fait des études, j'ai fait vraiment ma thèse de doctorant pour voir la gestion des déchets dans une grande agglomération de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous avons cette expertise. Il y a beaucoup de programmes, des actions qui ont précédé, monsieur Blaise. Pourquoi ça n'a pas marché? Nous n'avons pas un programme d'assainissement jusqu'à présent. Les actions sont spontanées, sporadiques. Et ça ne peut pas marcher. Il faut une structure. La constitution de 2006 remet la responsabilité de l'assainissement aux ETD. Mais on n'a jamais eu les élections à la base. Comment veux-tu que l'assainissement soit réalisé au niveau de la base? Donc, la première chose, c'est d'établir vraiment dans les entités, terminer les élections jusqu'au niveau de la base pour instaurer ces gens-là. Et ça va commencer. Parce que les déchets commencent dans les ménages. Ce que je demande, qu'on fasse soit une table ronde d'assainissement parce que de cela dépend nos vies et la vie de notre ville et notre honneur.
Les déchets commencent par les ménages, par là, je dirais, les familles aussi ont une part de responsabilité.
La famille a une part de responsabilité, mais qui organise la famille? C'est le père de famille. Le père de famille, c'est l'État. C'est l'État qui doit mettre les structures. Quelle est la possibilité que l'État met pour dégager mes déchets? Lorsque l'État a déjà structuré, il y a la loi. Soit la répression, c'est lui qui pollue, il va payer. C'est lui qui jette partout, il va payer. À ce moment-là, on peut contrôler la population. Mais quand vous me dites rien dans la maison, vous êtes père de famille. La femme peut revenir à 14h, les autres peuvent venir à 2h du matin. Mais si le papa met l'ordre dans la famille, et ce qui peut mettre l'ordre, c'est le programme national d'assainissement que nous n'avons pas.
Professeur Pierre-Albert Nguélélé, merci.
Voilà, notre invité est docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles et expert en environnement. Il répondait aux questions de Blaise Ndonga Lamayanda. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.